François avait 8 ans à la mort de Frédéric Barberousse, et on ne parlait de liberté conquise que dans la France lointaine, la patrie de sa mère. Dans le Sud, il en allait tout autrement. Henri VI faisait la loi. Sa loi. À Palerme, dans une tradition toute byzantine, le jeune Guillaume, fils de Tancrède qui avait soulevé la Sicile, dut porter lui-même pendant la messe la couronne des deux royaumes sur un coussin et la déposer aux pieds d'Henri VI à la fin du credo. Quelques jours plus tard, le lendemain de Noël, cet enfant de 8 ans eut les yeux crevés et fut châtré. Les cadavres de Tancrède et de Roger de Sicile, qui avaient été l'âme de la révolte normande, furent tirés de leur tombeau et décapités sur la place publique. La terreur marchait en avant d'Henri VI dans ses allées et venues à travers l'Italie méridionale. Des rumeurs atroces parvenaient des Pouilles. On apprenait que le comte Giordana, qui avait résisté, avait été arrêté et assis sur un siège de fer chauffé à blanc. On l'avait coiffé d'une couronne de métal incandescent qu'on avait enfoncé à coups de maillet sur sa tête, et une seconde couronne de fumée s'était élevée au-dessus du supplicié. Pendant ce temps, l'impératrice enceinte dut s'arrêter à Jésy et accoucha, sous une tente dressée en toute hâte sur la place communale, d'un garçon, le futur Frédéric II. Puis elle gagna le château de Foligno, résidence favorite de Conrad d'Urslingen. Le petit Frédéric devait être baptisé quelques mois plus tard, au début de 1195, sur les mêmes fonds baptismaux de pierre et de porphyre que le petit Giovanni di Bernardone. Baptême d'un roi. Ce fut dans la cathédrale de San Rufino qu'eut lieu la grande cérémonie qui se déroula avec toute la splendeur du Saint-Empire romain germanique. La foule en oublia pendant un jour sa haine de l'occupant et s'émerveilla devant une magnificence qui en imposait aux plus hostiles. François, présent à la fête, ouvrit les grands yeux de la 13e année pour ne rien manquer de l'éclat de tous ces tors et de toutes ces pierreries qui alourdissaient les chapes, les manteaux d'apparat et les tentures, la cohue des seigneurs, les héros d'armes avec leurs trompettes habillées de drapeaux, le tonnerre de cloches, les fanfares, puis, au fond du cœur illuminé, l'encens, les chants de triomphe et de joie, et la masse rouge des cardinaux comme du sang figé, lui donnaient de la Sainte Église une image resplendissante. Loin de savoir qu'elle était en péril, il n'en voyait que la pompe et la puissance apparente et se félicitait d'être le fils d'une mère aussi glorieuse. Qu'eût-il pensé s'il avait su qu'un jour il allait l'empêcher de s'écrouler? À vrai dire, il avait des prémonitions, mais d'un tout autre ordre. Il se voyait prince comme ceux qui entouraient le petit roi et ne s'en cachait pas. La gloire humaine, comme il la désirait. « Je la donne à qui je veux », soufflait une voix. Derrière le comptoir. Comment aurait-il songé au salut de son âme en observant dans la ville, et certainement dans la boutique de son père, les seigneurs aux manières raffinées qui les séparaient du reste du monde? Le secret désir de leur ressembler se glissait dans le cœur de l'adolescent. Passé l'enfance, il devenait autre. Non pas mauvais, cela il ne le fut jamais, mais différent du petit garçon attentif aux merveilleux des vies des saints. Et malgré tout, là encore, cavalcadait Saint-Georges dans son étincelante armure, comme si même au paradis, la chevalerie tenait sa place. Pour être chevalier, il fallait être seigneur. Ou bien, l'imagination de François en chavirait, pouvoir s'acheter une armure, partir pour la guerre, faire ses preuves.